Et pour ceux qui sont ici, on commence aujourd'hui, on continue cette série qui s'appelle Progression, où on regarde ensemble les livres de 1er et 2 Thessaloniciens. Et je t'invite à le dire quelquefois avec moi, Thessaloniciens. Thessaloniciens. Et une dernière fois, Thessaloniciens. Parce que c'est certain que moi, je vais me tromper. Je connais comment je suis quand je me mets à parler vite. Je déparle, donc je vous pratique. Vous allez réaliser que c'est pas si facile que ça. Tout d'abord, petite mise en contexte des livres aux Thessaloniciens. Lors de son deuxième voyage missionnaire avec Silas et Timothée, et possiblement Luc à partir de Philippe, alors qu'ils partent de Jérusalem, ils continuent, et on a une carte où exactement on les voit, ils partent en bas de Jérusalem, ils montent à Antioche, à l'autre Antioche, à Troas, et ils passent par Philippe. Au Philippe, où il y a la fameuse histoire de Paul en prison, des chaînes qui sont brisées pendant la nuit. Et suite à ça, Paul part et décide d'aller vers Thessalonique, qui est une des villes importantes de la Macédoine, aujourd'hui la Grèce. Hey, on voit là, vous reconnaissez à gauche la petite botte de l'Italie. La Grèce et toute la Turquie, la Galatie qui est aujourd'hui la Turquie, et la région d'Israël. Et donc, Paul fait ce voyage-là, qui est quand même un très long voyage. Quand, si vous prenez avec Google Maps de calculer les kilométrages, ils ont voyagé beaucoup. Et dans Acte 17, on a un petit rapport de ce qui s'est passé. Acte 17, verset 1 à 4. « Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra conformément à son habitude. Pendant 3 sabbats, donc 3 semaines, il discuta avec eux à partir des Écritures, en expliquant et démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter. Ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie. Quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-Juifs qui craignaient Dieu et beaucoup de femmes importantes. » Donc, Paul arrive à Thessalonique et, à son habitude, va voir dans les synagogues, va voir les Juifs, parce qu'il y a un référent, il part à partir de l'Écriture, de l'Ancien Testament, et il leur montre le Messie, c'est Jésus. Et il y a quelques Juifs qui sont convaincus, qui se convertissent, mais il y a surtout beaucoup de non-Juifs, de femmes importantes de la ville, de non-Juifs qui craignaient Dieu. Et c'est là que les choses commencent à mal aller. À partir du verset 5, « Cependant, les Juifs restés incrédules prirent avec eux quelques vauriens qui traînaient sur les places. » C'est pas nouveau. « Provoquèrent des attroupements et semèrent ainsi le trouble dans la ville. Puis se rendirent à la maison de Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. » Il y a des gens dans la ville, des Juifs qui disent, on va causer le trouble. Hein, ils prennent des gens puis ils leur disent, allez, faites du trouble dans la ville puis on va blâmer Paul et Silas pour ça. Ils commencent à faire du trouble au point que les nouveaux chrétiens de Thessalonique vont faire partir Paul et Silas de la ville. Ils vont leur dire, allez-vous-en jusqu'à Bérée. Et c'est là qu'on va voir le fameux texte où Paul va dire, les chrétiens de Bérée ont accueilli, les Juifs de Bérée ont accueilli l'Évangile d'une manière beaucoup plus réceptive. Ils vont regarder dans les Écritures ce qu'on leur enseigne. Et encore à Bérée, il y a des Juifs de Thessalonique qui vont venir faire du trouble, les mêmes. Et Paul va devoir quitter Bérée pour se rendre jusqu'à Athènes, puis à Corinthe. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire Actes 17 et 18 qui racontent cette partie du récit. Mais rendu à Athènes, Paul va envoyer Timothée à Thessalonique pour avoir des nouvelles. Paul est, on va le lire plus tard, mais Paul, dans son cœur, est très inquiet pour les chrétiens de Thessalonique. Il va dire à Timothée, « Retourne à Thessalonique pour avoir des nouvelles. » Alors, Timothée va faire le voyage aller-retour et revenir avec de très bonnes nouvelles concernant l'église de Thessalonique. Et c'est dans ce contexte-là que la première lettre aux Thessaloniciens va s'écrire. La semaine prochaine, on va prendre un peu de temps à regarder le contexte de la deuxième lettre. Mais non, ici, on a une très jeune église dans les débuts du christianisme, probablement une 20aine d'années après la mort de Jésus, avec seulement quelques semaines d'enseignement. Paul a été là juste 3 semaines, 1 mois, et après il a dû fuir. Et eux continuent à vivre dans un contexte de persécution importante. Parce que la persécution, elle n'a pas arrêté après le départ de Paul. Et c'est à cette église-là que Paul écrit la lettre de 1er Thessaloniciens. Hey, le titre de notre série, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans ces deux lettres aux Thessaloniciens. C'est l'idée de la progression. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1, nous dit, « Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Le verset 10 du chapitre 4 nous dit, « Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, hein, Paul le répète encore, à progresser encore. » Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, Paul écrit, « Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous nous portez, que vous vous portez tous, augmente de plus en plus. » Ce qui est au cœur de la lettre de Paul, c'est ce désir de voir les chrétiens de Thessalonique progresser. Progresser dans leur foi, progresser dans leur sainteté, progresser dans leur amour, dans leur reconnaissance, progresser dans leur service, progresser dans leur espérance. Paul les encourage à pas être satisfaits, à pas stagner, à pas demeurer au même point, mais à chercher le progrès dans leur foi et dans leur amour. Et c'est un encouragement qui s'applique encore à nous aujourd'hui. Hein, c'est facile de se satisfaire de l'endroit où nous sommes dans notre vie spirituelle, dans notre vie d'église. Je viens à l'église tous les dimanches, je lis ma Bible, je prie régulièrement, je participe à un petit groupe en plus, je donne ma dîme, je suis un bon chrétien. Puis c'est facile de dire, c'est correct. Et on peut en venir facilement à un niveau de complaisance, de stagnation. On n'avance plus. Mais à travers la lettre aux Thessaloniciens, Dieu nous appelle à progresser encore. À pas se satisfaire de là où on est, mais on dit, OK, je veux encore plus. Qu'est-ce que je peux avoir de plus dans ma vie spirituelle? Et alors que moi et Simon, hein, qui a prêché la semaine dernière sur le même livre, dans notre lecture, on a remarqué trois thèmes qui reviennent régulièrement dans les deux lettres et qui pourront nous aider dans notre progression spirituelle. À la semaine dernière, Simon nous a exhortés à progresser dans notre service. Dans notre service autant dans l'Église qu'à l'extérieur de l'Église, à suivre l'exemple de Paul et Silas lors de leur visite à Thessalonique. Et si vous avez manqué cette prédication, je t'invite à l'écouter sur YouTube. Excellent message. Et cette semaine, on va voir comment Paul nous encourage à progresser dans notre persévérance, dans notre endurance, à tenir ferme dans l'épreuve. Et la semaine prochaine, on va regarder comment Paul nous encourage à progresser dans notre espérance du retour de Jésus. Donc, service, tenir ferme en persévérance et espérance du retour de Jésus. C'est nos trois thèmes de cette série. Et donc aujourd'hui, tenez ferme, c'est le titre du message, progresser dans notre endurance, tenez ferme. Paul est très conscient des circonstances dans lesquelles les chrétiens de Thessalonique vivent leur foi. Il n'a pas quitté en disant, ah, ben maintenant moi ça va bien pour tout le monde donc. Il est conscient que les chrétiens de Thessalonique vivent des difficultés. Il mentionne à plusieurs reprises dans ses écrits. Premièrement, dans 1 Thessaloniciens 1, 6, Paul écrit, « Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. » Au milieu de grandes difficultés. Chapitre 2, verset 14, il écrit, « De fait, vous, frères et sœurs, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ en Judée, parce que vous aussi, vous avez enduré de la part de vos propres compatriotes les mêmes souffrances qu'elles de la part des Juifs. » Paul dit, « Vous êtes comme les gens de Judée qui, eux, sont persécutés par les leurs. Vous, depuis que vous êtes venus au Seigneur, vous vivez de la persécution. » Et 2 Thessaloniciens 1:4, Paul écrit, « Aussi sommes-nous fiers de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. » Les Thessaloniciens vivent plusieurs épreuves, plusieurs difficultés, que ce soit de la persécution qui vient de l'extérieur, que de ceux qui sont même à l'intérieur, mais qui cherchent à les éloigner de l'enseignement de Paul. Il semble leur foi apporter beaucoup plus de difficultés et de souffrances. Et pour beaucoup de chrétiens, ça peut paraître une surprise ou une incompréhension de retrouver de la souffrance, de la difficulté dans la vie chrétienne. Hein, on vient à Dieu, on donne notre vie au Seigneur, puis là, on s'attend que, OK, tout va changer, tout va être meilleur. On s'est même fait annoncer, c'est une vie nouvelle, une vie en abondance. Puis là, on pense que ça veut dire qu'il n'y a plus de difficulté. Puis là, soudainement, il arrive quelque chose de difficile. Mais en fait, non seulement les difficultés qui viennent du fait de vivre dans un monde déchu où nous sommes présents, on vit dans un monde où il y a le péché. Et c'est normal que ce monde-là apporte des difficultés. Mais on découvre aussi qu'on est dans un monde qui veut pas de nous, qui nous rejette, nous persécute, et qui a un combat spirituel qui fait rage et dont on se trouve au centre. Non seulement il y a la souffrance qui vient du fait que le monde, il y a le péché dans le monde, mais en plus, soudainement, on réalise que, oh, ce monde-là, il est contre nous parce qu'on est chrétien. Et c'est une réalité que les auteurs du Nouveau Testament ont mentionnée à plusieurs reprises. Pierre écrit dans 1 Pierre 4, au verset 12, « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. » Soyez pas surpris qu'il vive d'avoir des choses difficiles. Que lui compare à une fournaise, c'est chaud, là. Jésus va dire dans Jean 15, verset 18, « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. » Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Jésus dit, parce qu'ils me détestent et que vous me suivez, il va y avoir de l'opposition. Donc la question, c'est pas de savoir si on va faire face à des difficultés. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va réagir face aux difficultés qui vont arriver. Même si la vie avec Jésus est de beaucoup meilleure, ça signifie pas toujours qu'elle sera plus facile. Et Paul va le rappeler aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 3, verset 1. C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes, et vous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu et notre collaborateur dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution, et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. Voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. Paul est inquiet pour les Thessaloniciens. Hein, au point qu'au verset 1, il dit, « N'y tenant plus, ils ont envoyé Timothée. » Il a préféré rester seul avec Silas et envoyer Timothée pour affermir, pour encourager les chrétiens thessaloniques. Hein, parce qu'il dit, de peur que vous ayez, le tentateur vous ait tenté, vous ait éloigné de Dieu à cause de cette souffrance-là, et qu'on ait travaillé pour rien. Hein, et Timothée aussi est assez courageux de retourner dans un endroit où il y a de la persécution. Hein, c'est un meeting. Paul y rencontre Timothée, il dit, là, j'ai une petite tâche pour toi. C'est pas dans la description de tâche, mais c'est un extra. Faudrait que tu marches 500 kilomètres de marche. Parce que c'est ça, là, c'est si on marchait 24 heures sur 24, c'est 4 jours de marche. Fait qu'au moins 1 à 2 semaines de marche pour te rendre là, à Thessalonique, où il y a possibilité de persécution à nouveau, prendre des nouvelles, puis après revenir me donner ces nouvelles-là. Timothée est quand même courageux. Mais lorsque Timothée revient auprès de Paul, les nouvelles sont positives. Le texte continue. « Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous et nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous aviez toujours de nous un bon souvenir et que vous désirez nous revoir autant que nous le désirons aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. En effet, maintenant, nous vivons puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. » Pourquoi est-ce que Paul sait que les Thessaloniciens vont bien? Il dit, on a eu des bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. À cause de votre foi, à cause de votre amour, il fait, OK, ils vont bien. Ils sont restés proches de Dieu. Et on voit ici le cœur de parents que Simon a mentionné la semaine dernière. Il dit au verset 8, « Maintenant nous vivons, puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. » Maintenant, c'est comme, vous savez quand vous êtes inquiet, là, vous connaissez, vous êtes pas sûr de quelque chose, puis là, le téléphone sonne, finalement, c'est une bonne nouvelle. Vous faites, il y a un relâchement, là. Enfin, on peut vivre. Enfin, la vie vient normale. Paul est comme ça, là. Il l'a mentionné un peu plus tôt, on est dans nos angoisses et nos épreuves. Paul est angoissé parce qu'il sait pas si les Thessaloniciens vont bien. Et ça nous montre le cœur d'un parent pour ses enfants spirituels. Est-ce qu'ils vont bien? J'ai hâte d'avoir des nouvelles. Puis il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'Internet. Ça prend du temps. C'est des semaines et quasiment des mois avant d'avoir des nouvelles. Mais quand Timothée arrive, c'est pi, 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 pi. Là, ils vont bien. Ils vont bien. Ils tiennent ferme. Au cours des deux lettres que Paul écrit aux Thessaloniciens, il va aborder le sujet de la souffrance et surtout les encourager à tenir ferme, à persévérer. Il veut préparer les Thessaloniciens. C'est quelque chose qu'il dit, nous vous avons préparé, nous vous l'avons dit à plusieurs reprises. Il va avoir des difficultés. Mais il veut s'assurer qu'ils savent que la souffrance n'est pas le véritable ennemi. Paul écrit ailleurs dans 2 Corinthiens 12. Et il m'a dit, Dieu lui a dit, ma grâce suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans la détresse, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et ça signifie pas que Paul est à la recherche de la souffrance. On ne sait pas du masochisme qui est présenté ici. Mais Paul dit, quand je vis des moments de faiblesse, quand je réalise mes faiblesses, je sais que je peux me tourner vers Dieu et que je trouve ma puissance en lui, que la gloire de Dieu se révèle à travers mes faiblesses. Et Paul va montrer différentes choses aux Thessaloniciens pour les outiller pour tenir ferme. Parce que c'est ce qu'on veut. C'est bien de dire, OK, oui, il y a de la souffrance, d'accord, il y a des difficultés, il y a de la persécution. Mais si la prédication aurait été ici ce matin, ça serait déjà décourageant de sortir dans la neige. Mais là, encore plus décourageant. OK, on va souffrir. Mais c'est pas ça le message. Ça en est une partie, mais Paul veut surtout nous dire, tenez ferme. Et Paul va tout premièrement nous rappeler qu'on n'est pas seul. Paul va leur rappeler comment lui aussi il a souffert alors qu'il était parmi eux. Et comment que les églises de la Judée sont également persécutées. C'est pas juste les Thessaloniciens qui souffrent. Et leur souffrance, c'est pas juste une conséquence de leur manque de foi ou de leur mauvaise vie. Et des fois, ça peut être ça. On souffre, puis on n'en parle pas, puis on se dit, pourquoi moi je souffre? Tout le monde a de l'air heureux, tout le monde tape des mains, tout le monde se réjouit. Puis moi, je suis pas capable. Puis on n'en parle pas, puis ça reste en nous. Puis on pense que c'est juste nous. Puis on se décourage, puis on dit, ça doit être parce que je manque de foi. Ça doit être parce que je prie pas assez. Ça doit être parce que j'ai une mauvaise vie. Et Paul dit, « Hey, vous n'êtes pas les seuls à souffrir. » 1 Thessaloniciens 1, 4. Et je vous dis, c'est un verset qu'on va voir plusieurs fois. Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Hein, Paul dit, vous êtes devenus nos imitateurs, donc vous avez subi, vous avez vécu la difficulté, mais vous avez vécu comme nous. 1 Thessaloniciens 2, 2, Paul dit, « Après avoir souffert et avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu à travers bien des combats. » Et ça, c'est surprenant, puis ça nous montre le cœur de Paul. À Philippe, Paul s'est fait mettre en prison, hein, il s'est fait battre, puis là, il a vécu toute l'histoire, les chaînes qui sont tombées pendant la nuit, mais ça n'a pas été une expérience facile, il a fallu qu'il quitte la ville. Et sa prochaine étape, c'est de dire, « Bon, on continue. » La prochaine ville. Il a pas fait, bon, OK, on a besoin d'un break, c'est peut-être pas pour nous ça, hein, les gens sont pas très réceptifs. Non, non, ils sont allés dans une autre ville où ils ont encore vécu de la persécution. Ils sont allés à Bérée où ils ont encore vécu de la persécution. La persécution ne l'arrêtait pas. Mais Paul veut rappeler aux Thessaloniciens, on a souffert aussi. On a été maltraités. Chapitre 2, verset 9, « Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue. C'est en travaillant jour et nuit, nuit et jour, pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous, que nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. » Paul rappelle, il dit, hey, « On était fatigués, on avait beaucoup de peine. » Et on remarque à quel point Paul est authentique dans ses lettres aux Thessaloniciens. Il exprime comment il se sent, les inquiétudes qu'il vit, la fatigue qu'il ressent. Les difficultés auxquelles il fait face. Hein, plutôt, on a lu comment il disait à travers des angoisses et des épreuves. C'est rare qu'on entend un message ou qu'on dit quelqu'un qui dit, hey, ce matin-là, je suis fatigué puis je suis angoissé. Mais Paul est authentique dans ce qu'il écrit. Et il fait pas dans le but de faire pitié, là. Il fait pas dire, ah, pauvre moi, j'ai beaucoup de fatigue. Non, il cherche à montrer aux Thessaloniciens que la souffrance et les difficultés font partie de la vie. Et par ces révélations, les Thessaloniciens sont en mesure de s'identifier à Paul et aux autres chrétiens qui souffrent. Ils peuvent en devenir les imitateurs. Ils sont pas seuls. Et c'est souvent une difficulté qu'on a, ce que moi j'ai, d'être authentique et transparent avec les autres. D'être capable d'exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on vit, nos difficultés, nos épreuves, nos luttes. Parce que ça nous rend vulnérables. Hein, ça nous fait paraître faibles, ou en tout cas, on a l'impression, ou manquant de foi. Ah ouais, t'as de la difficulté? En tout cas, pas moi. C'est ce qu'on a peur. Que les gens reçoivent notre vulnérabilité, notre transparence et qui nous juge. En fait, c'est l'idée de Genèse 3 avec le péché. Le moment qu'Adam et Ève, le péché est entré dans leur vie, ils réalisent qu'ils sont nus. Et c'est pas soudainement, ils le savaient pas, puis ils le réalisent. C'est que soudainement, ils ont honte d'eux-mêmes, ils veulent se cacher. Et spirituellement, dans toutes nos relations, le péché fait qu'on a honte et on veut se cacher. On veut pas être vrai. Parce que parfois, on a l'impression d'être seul à vivre ce qu'on vit, que c'est facile pour les autres. Mais Paul nous révèle le contraire. Paul dit, moi aussi, j'ai été angoissé. Moi aussi, j'ai été fatigué. Moi aussi, j'ai souffert. Et quand on apprend à être vrai et transparent les uns avec les autres, on découvre qu'on n'est pas seul dans notre découragement. Et parfois, c'est encourageant de juste savoir que t'es pas le seul à être découragé. Et t'es pas le seul qui vit des difficultés. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà vécu des difficultés puis de la souffrance? Ceux à la caméra, vous levez la main aussi parce que tout le monde pas mal lève sa main. Ne croyez pas le mensonge qui dit que la vie sera toujours facile, que vos difficultés et vos épreuves sont seulement un manque de foi, qu'il n'y aura jamais d'inquiétude, jamais d'angoisse, jamais de doute. Paul nous mentionne qu'il vit de l'angoisse. Ça fait partie de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans l'angoisse, on va le voir ensemble, mais ça fait aussi partie de la vie. Et de la même manière que Paul a pu être un encouragement pour eux à travers du message qu'il leur a envoyé par Timothée, eux aussi, en retour, on peut être un encouragement pour Paul par le rapport que Timothée a rapporté. Hein? Paul était dans l'angoisse, il leur a communiqué, ils ont fait « Ah, on n'est pas les seuls », mais après, ils ont tenu ferme, Timothée revient, ils disent « Ils ont tenu ferme », et Paul se sent mieux, Paul est réjoui. Il dit « On vit enfin ». Dans l'épreuve, les croyants se supportent les uns les autres, se relèvent les uns les autres. C'est le premier outil pour tenir ferme dans les difficultés. Réaliser qu'on n'est pas seul et collaborer les uns avec les autres. Et non seulement ça aide de savoir qu'on n'est pas seul dans notre souffrance, mais notre persévérance, notre endurance devient un témoignage pour ceux qui le voient. On a parlé dans les dernières semaines d'être un témoin. Vous voulez être un témoin? Tenez ferme dans la souffrance, dans les difficultés de la vie. Soyez pas ceux qui sont écrasés par les difficultés de la vie, mais ceux qui disent « Je continue parce que j'ai Dieu avec moi ». Dans 2 Thessaloniciens 1:4, Paul est capable de dire « Aussi sommes-nous fiers de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez ». Paul n'est pas fier de toutes les difficultés qu'ils vivent, mais il dit, votre persévérance et votre foi à travers ça, on en parle à tout le monde. Ça relève d'autres gens aussi. Deuxième point, la joie du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. Difficulté et joie. C'est toujours surprenant de voir ces deux mots ensemble. Parce que tout le monde a des difficultés. Mais c'est pas tout le monde qui a de la joie. Puis la joie chrétienne est différente. Ça, c'est la joie du Saint-Esprit. C'est une joie qui ne diminue pas face à l'épreuve. En fait, souvent, elle augmente. Parce que le croyant habité de l'Esprit-Saint sait que la souffrance ne peut pas enlever ce qui est vraiment nécessaire. C'est une joie qui demeure, même quand notre monde est chamboulé et mis sans dessous-dessous, la joie demeure. Hein? Puis ce n'est pas une joie. C'est une joie profonde, là. C'est une joie qui trouve son origine dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne sa joie. Dans ce monde, on le dit, on va vivre des difficultés. Certaines parce qu'on est chrétien dans un monde perdu. D'autres parce qu'on est dans un monde perdu. Notre foi ne nous rend pas immunisés à la souffrance. Être chrétien ne signifie pas que la douleur n'est pas réelle et qu'on ne la sentira pas. Mais notre foi nous apporte une joie dans la souffrance. Peu importe ce qu'on perd, on ne perdra jamais Christ. On ne perdra jamais son amour. Et on sait qu'au travers des difficultés, des épreuves, même plus que ça, Dieu nous transforme. Dieu nous purifie. Dieu nous fortifie. Dieu nous enseigne. Jacques va écrire au chapitre 1, verset 2 et 3, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » On n'est pas appelé à se réjouir de nos difficultés puis à rechercher les difficultés, là. Okay? C'est pas « Ah, plus je souffre, mieux c'est, là. » Mais on est invité et appelé à connaître la joie dans nos difficultés par le Saint-Esprit. persévérer dans l'épreuve, souffrir pour l'Évangile, testant la réalité de notre foi. Et alors qu'on traverse les épreuves avec notre foi intacte, on découvre une joie encore plus grande. Notre foi est fortifiée, notre persévérance est enrichie. L'épreuve est là, la difficulté est là, mais on persévère, on se rapproche de Dieu, on se rapproche des autres. Puis quand c'est terminé, on fait « Oh, merci Seigneur, le Seigneur est bon. » Puis on est capable d'encourager les autres, notre joie est grandie. Le pourquoi de notre souffrance n'est pas toujours facile à comprendre et à expliquer. Mais la Bible nous enseigne, c'est que peu importe l'origine de nos difficultés, Dieu peut et veut les utiliser pour nous rapprocher de lui, pour nous faire grandir. Timothy Keller va dire, « Parfois, la souffrance est donnée afin de châtier, de corriger quelqu'un pour des mauvais choix de vie. Hein? » Et là, on a l'exemple de Jonas. « Parfois, la souffrance n'est pas pour corriger le mal passé, mais pour prévenir un mal futur. » Et on peut penser à Joseph. Et parfois, la souffrance n'a pas d'autre but que d'amener une personne à aimer Dieu encore plus ardemment pour qui il est, et ainsi découvrir la paix et la liberté ultime. Dieu utilise la souffrance pour nous rendre encore plus comme Jésus. Dès le moment de votre conversion, Dieu débute l'œuvre de vous transformer. Et la Bible prend une belle image de vous émonder, de couper les branches qui poussent moins pour que les autres branches portent plus de fruits, afin d'être de plus en plus semblable à Jésus. Donc, réaliser qu'on n'est pas seul, vivre dans la joie du Saint-Esprit, et troisièmement, se revêtir d'une armure spirituelle. 1 Thessaloniciens 5:8 nous dit, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. » Ah, on connaît beaucoup là l'armure spirituelle dans nos textes de la Bible avec l'épée de la foi, le bouclier et ainsi de suite. Là, il y en a un autre. Paul utilise une autre référence à une armure. La cuirasse de la foi et de l'amour et l'espérance du salut comme casque. Paul invite les Thessaloniciens à être prêts, comme des soldats qui ont revêtu leur armure. De porter la foi, l'amour et l'espérance comme une protection, afin de tenir ferme. Ah, parce qu'un soldat, j'imagine qu'un soldat qui porte son armure, il n'est pas en mode passif, en mode « bon, ben je vais me reposer maintenant ». Il est prêt, il est préparé, il a mis toute son armure, donc il est prêt là, il est pas dans le mode « je suis inconfortable, puis j'attends ». Non, il tient ferme, il comprend que le combat approche. Un soldat préparé n'est jamais surpris quand l'ennemi attaque. Et Dieu a cherché à préparer les chrétiens de Thessalonique du mieux qu'il pouvait. Ben, Paul a cherché, oui, mais Dieu aussi. Mais c'était maintenant à eux de tenir ferme. Hey, tenir ferme ici, là, puisque Paul utilise, et à toutes les lettres de Paul, vous allez lire, c'est un terme militaire. Les soldats étaient placés, les soldats romains avaient une approche à la guerre, ils étaient placés un à côté de l'autre, et ils se plaçaient. Et l'ennemi ne pouvait pas passer. On a des gros boucliers, on a nos lances, et on tient ferme. Et on ne bouge pas. C'est un pilhomme, je crois, la lance. Merci, Christian. Donc, quand Paul dit « tenez ferme », il leur rappelle, hein, eux, ils ont des soldats autour d'eux, et il leur rappelle les soldats qui tiennent ferme, qui sont en position de guerre. Ils ne reculent pas. Et Paul dit « revêtez l'armure du chrétien ». Soyez en mode combat. Tenez ferme. Pas juste passif, puis bon, ça va sortir à un moment donné. Non, ayez un mindset, une attitude de soldat qui est à la guerre. Mais Paul nous rappelle aussi que ce n'est pas par nos propres forces. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15. « Ainsi donc, frères et sœurs, tenez ferme et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. » que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés, qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, encourage vos cœurs et vous affermisse dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole. Paul est conscient que c'est pas par leur propre force que les Thessaloniciens vont pouvoir tenir ferme et demeurer forts dans la foi. Ça vient pas d'eux. Ça nous vient, il dit ici, de Jésus-Christ lui-même, de Dieu notre Père, qui nous donne consolation, espérance, qui nous affermit, qui nous encourage. Et Paul dit, il nous a donné par sa grâce. C'est par grâce que Dieu nous donne toutes ces choses. C'est sa grâce qui nous permet de tenir ferme, d'être affermis. C'est pas un mérite, c'est pas parce que moi j'ai fait plus d'efforts, donc maintenant je vais tenir ferme plus, Dieu va me bénir en retour. Paul dit, Dieu nous a aimés, il nous a donné par sa grâce toutes ces choses. Donc c'est comme ça qu'ils sont capables de tenir ferme. Gardez votre foi enracinée dans les enseignements que vous avez reçus. Recevez de Jésus, de Dieu le Père, amour, consolation, espérance, encouragement, affermissement. Vous voulez tenir ferme, vous trouvez les choses sont difficiles, rapprochez-vous de Dieu, rapprochez-vous de sa parole, rapprochez-vous de sa présence. Soyez authentique avec Dieu, dire, je suis pas capable par moi-même, j'ai besoin de ta grâce. Afin de tenir ferme. Et finalement, Paul encourage les Thessaloniciens à avoir les yeux fixés sur l'avenir, sur l'éternité. On relit ce texte de 1 Thessaloniciens à partir du chapitre 1 à partir du verset 4. Aussi sommes-nous fiers de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. Savez-vous pourquoi moi j'aimerais ça qu'on soit renommé pour une église qui tient ferme? Que pasteur Jean-Fred soit fier de parler comment on tient ferme, comment on persévère au carrefour malgré toutes les difficultés. Je pense qu'il est fier de nous, mais j'aimerais ça que ce soit encore plus tout le temps. Hein, que ce soit une réputation, le carrefour chrétien de la capitale, c'est une église qui tient ferme malgré toutes les difficultés qu'ils ont pu vivre. Et là, Paul continue. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez aussi. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous donner à vous qui souffrez du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il viendra ce jour-là pour être célébré parmi ses saints et admiré parmi tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à notre témoignage. Non seulement Paul rappelle qu'à la fin, ceux qui vous font du mal vont recevoir le jugement de Dieu. Il leur rappelle que, en ce moment, c'est vous qui souffrez. Et c'est une souffrance injuste, parce que vous méritez pas cette souffrance-là. Mais il leur rappelle qu'un jour, Dieu va descendre, Jésus va revenir, et remettre à chacun selon ce qu'il mérite, sauf nous qui le salut par grâce. C'est ce que Dieu va dire dans l'Ancien Testament, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Pas à nous-mêmes. Ça serait facile d'avoir dans notre cœur, « Ah, j'ai hâte que le jugement vienne sur eux. » C'est pas à ça qu'on est appelé. On est appelé à nous, pour notre part, souhaiter que la grâce de Dieu soit reçue par tous. Mais Paul rappelle qu'à la fin, il va y avoir un jugement. Mais surtout, parce qu'il ne faut pas nécessairement se réjouir du jugement, c'est pas un sujet de réjouissance. Au contraire, on voit Paul ailleurs dire comment il serait prêt à tout donner, à lui prendre la punition qui doit être sur son peuple pour que son peuple vienne à Dieu. Paul veut que les gens viennent à l'Évangile. Mais ce qu'il veut surtout rappeler aux Thessaloniciens, c'est que Dieu a pour nous du repos. À la fin, on va être dans sa présence, dans la gloire du Seigneur. Hein, il dit au verset 7, de vous donner à vous qui souffrez du repos. Et ça, c'est un terme qui nous vient de l'Ancien Testament où la bénédiction ultime là, pour le peuple d'Israël, c'était le repos. Le repos de Dieu, ça voulait dire la paix de tous les ennemis, ça voulait dire l'agriculture qui va bien, tout va bien dans le pays. Le peuple et le pays avaient du repos. Et quand Paul dit ici, à la fin, on va avoir du repos, c'est ça, c'est l'arrêt de toutes les souffrances, c'est l'arrêt de toutes les persécutions, c'est une vie qui va bien, qui est à son meilleur. Et Paul leur rappelle, au retour de Jésus, ceux qui ont cru vont vivre le repos. Et plus que ça, il dit, vous allez, Dieu va révéler sa gloire, le Seigneur va révéler sa gloire de sa force, et il va être célébré parmi ses saints et admiré. Ça va être une fête. Ça va être un jour glorieux quand Jésus va revenir. Amen. On va en parler davantage la semaine prochaine, alors qu'on parle sur le retour de Jésus et sur cette espérance que nous avons. Mais j'ai invité les musiciens. On est appelé à tenir ferme. Et dans le livre aux Thessaloniciens, ça passe par réaliser qu'on n'est pas seul dans nos souffrances. Que l'Église, c'est une famille qui se supporte les uns les autres, qui s'encourage, qui se relève. On est appelé à vivre dans la joie du Saint-Esprit, à revêtir l'armure de foi, d'amour et d'espérance. À être conscient que c'est pas par nos propres forces, mais que c'est par la grâce de Dieu. Et finalement, à garder l'espérance du retour de Jésus. À garder toujours en tête, Seigneur, tu as tellement plus pour moi. Face aux difficultés, il serait facile de lâcher prise, de reculer, d'abandonner, de fuir. Pour prendre cette image militaire, ce serait facile face à l'ennemi de tout lâcher puis courir, puis se fuir loin. Mais autant à travers la vie de Paul, de ses enseignements, de l'exemple des chrétiens de Thessalonique, ce matin, Dieu nous encourage à tenir ferme, à persévérer, à ne pas se relâcher, mais à toujours s'approcher de lui comme notre source de joie, notre source d'amour, notre source de foi et de persévérance. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Père éternel, merci, Seigneur, pour cette parole. Merci, Seigneur, que l'exemple de Paul, de Timothée, de Silas, des Thessaloniciens, et maintenant jusqu'à nous aujourd'hui, et peut nous servir d'encouragement, de réconfort, Seigneur. De savoir, Seigneur, qu'à travers toute l'histoire de l'Église, il y a des gens qui ont tenu ferme malgré les difficultés, malgré la persécution, malgré les épreuves, Seigneur Dieu. Et que cette persévérance, Seigneur, est devenue un témoignage pour les gens autour d'eux. Cette persévérance est devenue un encouragement pour les frères et sœurs. Seigneur, aujourd'hui, on veut saisir cette promesse, on veut saisir cette vérité pour nous aujourd'hui. Que tu demeures fidèle, Seigneur. Que tu as pour nous, Seigneur, consolation, affermissement, encouragement, oh Dieu, amour, joie, Seigneur, on veut vivre, Seigneur, avec cette espérance qu'un jour nous serons dans ta présence. Qu'un jour nous célébrerons la venue de notre roi. Et nous vivrons dans ton repos, Jésus. Seigneur, je te prie ce matin pour ceux qui souffrent, ceux qui vivent des difficultés, qui ne comprennent pas pourquoi, qui se sentent écrasés par tout ce qu'ils vivent. Seigneur, au-delà de comprendre le pourquoi, je te prie de les accompagner afin de traverser, Seigneur, ces difficultés. Seigneur, tu nous dis dans Ésaïe que tu nous abandonneras pas alors que nous passons dans le feu, il ne nous consumera pas, alors que nous passons dans la mer, il ne nous submergera pas, Seigneur Dieu. Car tu es avec nous. Et je te prie que ce soit une vérité qui s'accomplisse dans nos vies ce matin. Oui, Seigneur, console, réconforte, soulève ce matin. Remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur, de ta paix, oh Dieu. C'est ce qu'on désire, Seigneur Dieu. Que ta main se manifeste à travers notre souffrance, oh Dieu. Que ta gloire se révèle, Jésus. Amen.